des vies et des hommes.
François-Xavier Clément, bonjour.
Bonjour Fanny.
Vous avez été invité par les éducateurs chrétiens de la Mayenne pour venir faire une conférence sur l'éducation intégrale de la personne.
Exactement, oui.
Cette initiative a lieu tous les ans. L'année dernière, nous avions reçu Jean-Marie Petitclerc. Et cette année, donc, c'est vous parce que vous avez écrit un livre, mais pas que. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes éducateur de profession.
Exactement.
Vous avez eu quatre enfants d'une femme qui malheureusement est décédée. Mmh. Et vous avez vécu une seconde noce après un veuvage de 7 ans avec une femme qui elle-même était veuve et avait 4 enfants également.
Exactement. Oui, oui.
Donc les enfants ou les grands-enfants, parce qu'aujourd'hui ils sont grands, ils ont 20 ans à peu près. Mmh. Enfin, donc voilà, ça vous connaît. Ça vous connaît parce que aussi vous avez eu une longue expérience au sein de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, au sein d'établissements scolaires.
Exactement.
Collège, lycée.
Lycée professionnel.
Lycée professionnel. Donc, vous avez pu voir une multitude de populations, j'imagine.
Mmh, mmh. Élèves très différents.
Et vous avez écrit donc un livre sur l'éducation intégrale de la personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation intégrale de la personne?
L'éducation intégrale, déjà le terme intégral, on peut dire qu'il signifie la totalité. En se disant que c'est une manière de voir la personne dans sa globalité, dans sa totalité. Sauf que le mot intégral renvoie à l'articulation des différents éléments les uns par rapport aux autres dans l'éducation de la personne. On peut éduquer la personne dans sa totalité, dans sa globalité, mais quand on dit de cette manière-là, on ne dit pas qu'il va falloir bien articuler le corps, le cœur et l'esprit, la sensibilité, la volonté et l'intelligence, la vie spirituelle et la vie des vertus, etc. Et tous ces éléments, il va falloir les articuler les uns par rapport aux autres et de manière cohérente et les unifier. Et pour cela, eh bien, il faut avoir une finalité, il faut avoir un but. S'il n'y a pas un but, c'est-à-dire un sens à la vie, et un sens qui dépasse l'espérance de la vie terrestre, mais qui est une espérance céleste, une espérance de la vie éternelle, eh bien alors c'est très difficile de les unifier, c'est très difficile de les ordonner les uns par rapport aux autres. Parce que rapidement, les épreuves de la vie quotidienne font que le bonheur ici-bas est le seul objectif, alors très tôt, l'enfant... sa vie est chahutée par des séparations, par des drames, par des deuils, ou le jeune adulte qui très tôt vérifie effectivement que la vie est jonchée d'épreuves et de moments où il faut trouver un ressort, un supplément d'âme pour traverser ces moments de turbulence, eh bien on a besoin de se raccrocher, on a besoin d'aller chercher une autre espérance, une espérance avec un grand E. Et l'éducation intégrale, elle est définie dans les textes du Concile Vatican II. On la trouve aussi dans le code de droit canonique de l'Église catholique. Alors le code de droit canonique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en quelque sorte le dallos de l'Église, là où se trouve tout le code juridique de l'Église. Et il y a plusieurs articles qui parlent d'éducation, et notamment l'article 795 qui définit ce qu'est l'éducation, la véritable éducation, comme disent les pères du Concile. Et on définit l'éducation intégrale comme ce processus par lequel on va aider une personne dans sa construction intérieure, aussi bien le corps, le cœur et l'esprit, à être ordonné en vue des fins dernières, c'est-à-dire en vue du salut et de la vie éternelle.
Alors cœur, corps, esprit sont effectivement des notions que l'on entend assez facilement. Là, vous l'avez conjugué avec la volonté, avec
l'intelligence,
avec la sensibilité, je ne sais plus quel terme vous avez, la sensibilité, c'est ça?
Exactement, parce qu'il y a les cinq sens externes qui sont éminemment importants et que nous oublions bien souvent dans l'éducation et qui pourtant sont les cinq portes d'entrée de la réalité, de tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Je ne connais pas d'autres portes que les cinq sens externes. Et ça m'est arrivé de dire en conférence ou dans des formations, si quelqu'un connaît une autre porte pour rentrer dans la vie d'une personne que l'une de ces cinq portes, c'est-à-dire la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe, eh bien, qu'ils viennent me voir parce que moi, j'en connais pas. Et ces cinq portes, c'est notre sensibilité externe. Et puis après, il y a la sensibilité interne, c'est-à-dire notre imagination, notre mémoire. Et cela, tout cela, c'est notre sensibilité. Et cette sensibilité, elle dispose la vie intérieure. Ou elle l'indispose.
Ou elle l'indispose, oui.
Voilà.
Où est-ce que vous mettez les sensations ?
Les sensations, c'est justement
c'est
le...
C'est justement ça, ces cinq sens.
Et la sensation, c'est le rapport que j'ai, par exemple, au toucher, en touchant une table et en sentant le froid ou en sentant le chaud. Ça, c'est une sensation. Mm-hmm. Et donc, la sensation, c'est le rapport qu'il y a entre ma sensibilité externe et ma sensibilité interne. Et après, je peux passer par un acte de l'intelligence qui va apprécier et être capable de poser un jugement pour la faire intervenir l'intellection en quelque sorte. Mais dans un premier temps, c'est vrai que l'enfant passe par la sensibilité. La méthode Montessori l'a très bien compris. La méthode Jousse aussi de Marcel Jousse l'a très bien compris. Et quand on n'éduque pas la sensibilité, quand on ne passe pas par la sensibilité, eh bien on risque fort d'avoir une forme de dualité qui s'installe, voire une duplicité entre la vie intérieure qui peut être très belle, très mystique même, et avec des élans extérieurs peut-être assez flatteurs, et puis avoir de l'autre côté la sensibilité en mille morceaux, un peu dévoyée, un peu détruite, un peu blessée, et sur laquelle pourtant il y aurait un gros travail à faire.
C'est une façon d'être connecté pleinement,
oui,
à son corps et à ses trois dimensions.
Exactement.
Humaines.
Exactement. Et d'unifier, ce que l'on apprend dans l'éducation intégrale, c'est à unifier par le cœur. C'est-à-dire se dire que le cœur est ce qu'il y a de commun à la fois à la sensibilité et à la fois à la vie spirituelle. Et bien évidemment au corps. Il y a le cœur corporel, il y a le cœur affectif et il y a le cœur au sens de l'amour de Dieu. Ce cœur est le chemin d'apprentissage que l'on retrouve par exemple chez les Salésiens avec Don Bosco, que l'on retrouve dans toute la pensée de l'Église. Hein, comme ça m'arrive souvent de le dire dans ce livre sur la voie de l'éducation intégrale, je n'ai vraiment rien inventé, j'ai juste mis en ordre des choses avec l'expérience que j'en ai de 25 ans dans l'éducation. Et la question du cœur, elle est vraiment centrale. C'est par là que passe Don Bosco quand il parle de ce qu'il appelle le système préventif, c'est-à-dire de s'assurer qu'un enfant, non seulement dans l'acte éducatif, est aimé, mais qu'il se sent aimé. Il faut non seulement les aimer, mais aussi, dit Saint Jean Bosco, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se perçoivent comme des êtres aimés, c'est-à-dire qui ont de la valeur. Parce que c'est ainsi qu'on donne confiance à un enfant dans l'acte éducatif, même quand il s'agit de lui dire non. Il y a des noms qui aiment. Voilà.
Il y a des noms qui structurent.
Oui.
Donc voilà, vous nous avez présenté un petit peu l'éducation intégrale. En qualité de chef d'établissement, puisque vous avez été chef d'établissement,
oui,
c'est un sacré défi parce que vous avez une ribambelle de jeunes qui ont une histoire, qui vous sont confiés mais qui ne sont pas vos enfants non plus. Mmh. Je pense en filigrane aux éducateurs chrétiens. Ils ne sont pas premiers, ils ont leur pierre à apporter, ils ont à aider le jeune peut-être à découvrir d'autres facettes si celles-ci ne sont pas révélées au sein de leur foyer ou qu'il y a des tentatives mais que ce n'est pas vu.
Déjà, il faut vraiment que l'éducateur sache que quel que soit l'enfant et quelle que soit la situation familiale, les parents sont toujours les premiers éducateurs. Et quand on dit les parents sont les premiers éducateurs, c'est une manière non pas de rappeler un principe qui viendrait s'imposer à l'éducateur, mais c'est une réalité qui s'impose dans le cœur de l'enfant. L'enfant, il croit intégralement, il se déploie intégralement en étant comme un greffon qui est né de l'amour de deux parents. Et donc, il a pour curseur dans son cœur, dans sa conscience, comme curseur premier, la relation avec ses parents et l'exemple de ses parents. Et quand un éducateur éduque un enfant et que l'on pense qu'on va pouvoir éduquer un enfant indépendamment de ses parents, c'est une fadaise, on n'y arrivera jamais. Et il y a toujours besoin effectivement de revenir à ça. Deuxième point, qui est parfois bien difficile comme éducateur, c'est se dire que l'enfant n'obéit pas, il imite. Ça veut dire que le premier devoir de l'éducateur, c'est son exemplarité. Et quand on dit ça, les éducateurs, immédiatement, ils vous disent, mais attendez, sauf que moi, je ne suis pas parfait. Hein. Donc, moi, je ne peux pas être un exemple pour les enfants. On ne peut pas être un modèle pour un enfant. Et on n'a pas à être un modèle. Mais en revanche, on a à être un exemplaire cohérent de nos convictions et des convictions que l'on va partager avec un enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, prôner la fidélité à la parole donnée et, d'un autre côté, vivre dans la duplicité. Et quand un éducateur exige d'un enfant qu'il se comporte de telle ou telle manière et qu'il n'en donne pas lui-même l'exemple, alors il crée dans le cœur de l'enfant une disjonction qui sera irréparable. Et que soit il sera une occasion de scandale, et là, pas la peine de vous dire ce qu'en dit le Seigneur dans l'Évangile, soit il sera l'occasion d'une incohérence dans la construction de l'enfant sur laquelle l'enfant ne pourra pas faire confiance en l'adulte. Et donc, non seulement il disqualifie l'acte qu'il a posé, mais en plus de cela, il risque de disqualifier même l'image de l'adulte, c'est-à-dire le désir que l'enfant a d'être lui-même un adulte. Voyez. Et puis, la troisième dimension, c'est se dire que, par rapport à votre question sur les éducateurs, oui, c'est difficile pour des éducateurs de penser l'éducation intégrale, c'est-à-dire de penser l'enfant dans sa globalité, dans sa totalité, de façon intégrale, parce que nous vivons dans un système scolaire qui a tendance à penser en silo l'éducation. Donc on pense la classe et le rapport au cours d'anglais, puis le rapport avec le professeur d'histoire, et puis avec le professeur de français, et puis arrive le moment de la pastorale, une forme de petit local qui est au fond de la cour, et puis vient une intervenante pour l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui pourrait être vous, qui va donner, pardon de l'expression, mais parfois bonne conscience à l'établissement, c'est bon, on a traité le sujet, voyez, alors que finalement, si tout cela n'est pas unifié, si tout cela n'est pas transversal, si ce n'est pas partagé par une exemplarité par tous les adultes, alors ça ne veut rien dire. Ça veut dire que l'enfant, il va picorer un petit peu de ci, un petit peu de ça, etc. Et puis, on se dit qu'un jour, il fera son choix. Oui, mais c'est compliqué, hein, aujourd'hui, de faire un choix qui soit celui du bien, du vrai, du beau.
C'est compliqué d'autant plus qu'aujourd'hui, on invite aussi beaucoup les adultes à se créer... C'est peut-être un peu exagéré, mais de créer soi-même quand même ses propres valeurs et faire ses choix. Donc tout est mis un peu à même niveau, ce qui fait que ça peut être compliqué pour l'enfant de s'y retrouver au milieu de tout ça.
Oui, oui, oui. C'est même très angoissant en fait. Parce que quand un enfant ne perçoit pas un chemin cohérent, et qu'il est renvoyé, comme vous le dites très justement, finalement, à tes choix de construction personnelle, c'est à toi de donner un sens à ta vie, c'est à toi de choisir, c'est à toi de diriger, c'est à toi de t'orienter, c'est à toi de choisir ta spécialité, c'est à toi de choisir Parcoursup, c'est à toi de choisir ton métier, etc., etc. Mais c'est vertigineux et angoissant. Heureusement qu'il y a autour de l'enfant des maîtres, des disciples, des personnes qui vont petit à petit lui donner l'exemple d'un chemin. Et quand on a caricaturé un petit peu le modèle patriarcal ou le modèle dans lequel le père était l'exemple que devait suivre l'enfant et peut-être suivre le même métier, ou alors au contraire le père qui transférait sur l'enfant ce qu'il n'avait pas réussi à faire lui-même, donc il voulait absolument le voir réussir de grandes études avec une prépa parisienne et puis une école polytechnique derrière, sauf que à caricaturer ce modèle, on en oublie que l'enfant a besoin d'avoir une orientation dans sa vie et d'avoir une finalité qui va l'aider à lever les yeux, à regarder les cimes et à être ambitieux, réellement ambitieux, non pas sur son métier, non pas sur son projet de vie terrestre, mais ambitieux sur la perspective de la vie éternelle. Quand on y pense bien, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Soit, comme ça m'est arrivé souvent de le dire à des éducateurs chrétiens, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais il n'y a pas une zone grise au milieu où on dirait « si, j'y crois, mais en même temps, vous savez, c'est compliqué avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas si facile de leur annoncer tout ça ». Mais ils en crèvent quand on ne leur annonce pas. ils en crèvent. Et moi, je pense que c'est au contraire essentiel qu'on leur annonce, mais qu'on leur annonce avec beaucoup de joie, comme le faisait Don Bosco, qu'on ne le fasse surtout pas sur un mode simplement descendant, mais qu'on le fasse sur un mode d'accompagnement, un mode d'ouverture, où on leur donne à penser que la vie adulte est une joie, que la vie humaine est une joie, et que la vie éternelle est une joie encore plus grande.
L'envie de grandir.
Oui, exactement, l'envie de grandir.
À tout point de vue.
Exactement, mm-hmm. Ouais, c'est ça.
Une croissance humaine, une croissance spirituelle. Justement, fort de tout ça, vous avez un peu quitté, je ne veux pas dire le monde de l'éducation, mais le monde de l'école, pour y revenir par un autre chemin, puisque vous avez créé votre école Saint-Joseph. Alors, ce n'est pas tout à fait l'école Saint-Joseph, c'est Saint-Joseph Éducation,
oui.
Un lieu de formation, un lieu d'audit aussi pour les autres établissements. Et puis, vous faites des conférences et vous êtes en train de créer un réseau de collèges aussi.
Exactement. Dans la situation actuelle, c'est un secret pour personne, hein, le ministre de l'Éducation l'a encore dit à la rentrée et s'est dit à chaque rentrée un peu plus, les résultats internationaux sont catastrophiques sur la France. Notre système scolaire, dire qu'il est en faillite, je pense, ne serait pas abusif. En tous les cas, de dire qu'il va très très mal, tout le monde en est d'accord. On ne trouve plus de professeurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas de chômage et qu'on est dans le plein emploi. C'est parce que ce métier n'attire plus. C'est parce que ce métier est devenu un repoussoir pour les étudiants qui, pourtant, sont, j'en suis bien certain, nombreux à être passionnés par une discipline et qui pourraient poursuivre en transmettant la joie de découvrir les mathématiques, la physique, les lettres, etc. Et donc, fort de tout cela, et de 25 ans d'expérience dans l'enseignement catholique privé sous contrat, j'ai souhaité transmettre mon expérience à travers ce livre, mais aller plus loin en me disant il faut absolument donner la possibilité à des chefs d'établissement, à des professeurs, à des éducateurs, de retrouver la joie de ce regard global sur l'enfant dans la perspective de sa fin la plus haute. Et nous avons créé effectivement, alors avec un associé et puis ensuite petit à petit avec une équipe qui s'est élargie, aujourd'hui nous sommes 5, bientôt 6, à travailler à la fois dans un fonds de dotation qui s'appelle Saint-Joseph Éducation et à la fois avec une société commerciale qui s'appelle Esther Éducation. Ces deux organisations nous permettent à la fois de développer de la formation, de faire un métier un petit peu de consultant en quelque sorte et d'accompagner des établissements. On a écrit une charte qui est la charte de l'éducation intégrale qu'on trouve sur notre site internet Saint-Joseph Éducation. Et cette charte, elle est assez développée. C'est pas une charte d'une page avec simplement des intentions, mais c'est une charte qui se développe sur 39 articles, donc une quinzaine de pages. Et elle développe tout ce que l'on peut vivre dans un établissement scolaire qui peut être ajusté et ordonné en vue de l'éducation intégrale. Et ensuite, il y a Esther Éducation qui est là l'activité proprement de développement pour créer des collèges partout où ce sera possible, avec un mode un peu particulier, dans la mesure où on a enregistré les cours en vidéo d'excellents professeurs. Et dans un collège, par exemple en Anjou, ou dans le Vaucluse, ou dans l'Eure, ou en région parisienne, eh bien, l'enfant arrive dans sa classe le matin, et à 8h30, il a par exemple un cours de français qui va commencer. Il y a dans la classe un précepteur, qui est soit un précepteur de lettres, donc avec une formation plutôt littéraire, soit un précepteur scientifique. Là, comme c'est un cours de français, ce sera le précepteur littéraire qui sera présent, qui accueille les enfants, qui les installe, qui assure qu'ils ont bien leur matériel, qu'ils sont en situation d'écoute. Commence la vidéo et pendant une demi-heure, ils vont écouter le cours d'un professeur dont le cours a été enregistré, donc ce n'est pas en direct. Et pendant une demi-heure, ils ont cette transmission. Ce professeur ne va faire que transmettre. Et puis ensuite, commence une heure avec le précepteur à la fin de cette transmission où le précepteur va accompagner la compréhension, l'appropriation, la répétition, la mémorisation, l'application par des exercices et l'évaluation des élèves. Ainsi, on a un format qui est un peu hybride entre un système classique sur le fond, c'est-à-dire que la transmission se fait avec des professeurs qui ont des contenus de cours qui sont tout à fait remarquables et avec une vraie tradition classique d'enseignement. Et d'un autre côté, passer un temps suffisamment long et approfondi pour que l'enfant, quand il a fini cette heure et demie de leçon en français, il maîtrise réellement les notions il les a appliquées et il a même plus besoin de les travailler derrière. Dans ces collèges, la matinée est consacrée aux enseignements, qu'on va dire classiques et fondamentaux. La matinée est assez longue puisqu'elle va de 8h30 à 13h. Et l'après-midi, à partir de 14h30, les enfants ont des activités qui sont plus autour du pôle éveil, donc à la fois les arts plastiques, la musique, et puis l'apprentissage de métiers, de l'artisanat, du travaux manuels, et évidemment le sport.
Là, on retrouve vraiment vos cinq sens.
Exactement.
On va explorer, toucher. Et c'est sous contrat, ces établissements ?
Non, ce sera hors contrat. Peut-être qu'un jour, on les passera sous contrat, c'est possible.
Mais vous essayez de préparer aux diplômes nationaux, je pense, au bac.
Bien sûr, les élèves ont des programmes qui vont même être au-dessus des programmes actuels, avec une méthode qui leur permet d'aller assez loin. Et donc, évidemment, le but du collège est de rentrer en lycée, le but du lycée est de passer Parcoursup et les études supérieures. On n'est pas sur un parcours à miche, complètement en parallèle, on est sur un parcours tout à fait classique.
Tout ça, c'est le fruit de votre réflexion, à voir sur le terrain ce que vous pouviez faire de mieux ou faire autrement, en fait.
La difficulté à laquelle j'ai été confronté pendant 25 ans, au moins concernant l'enseignement, c'est l'intellectualisation de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on a des pédagogues qui, pendant des décennies, vous ont affirmé des choses, mais absolument abracadabrantesques, hors sol, qui parlaient d'un enfant qui n'existe pas, si ce n'est rue de Grenelle, au ministère, peut-être sur une étagère. Ce sont des pédagogues qui ont pensé qu'il fallait absolument transformer une leçon et un mode de transmission en une séquence d'animation, de découverte. Et donc, plutôt que de transmettre véritablement aux élèves, et en assumant l'asymétrie entre celui qui sait et celui qui est là pour apprendre, ils ont voulu casser cette asymétrie en disant que ce rapport de domination, finalement, brimait la liberté de l'enfant, et qu'il fallait transformer le cours en séquence de découverte, et donc permettre à l'enfant de découvrir par lui-même les savoirs. Ce mode-là est un mode, on en voit les fruits aujourd'hui, qui est dramatique. Il est stérile et les enfants n'apprennent plus rien. Et si les enfants n'apprennent plus rien, c'est qu'on a pensé qu'il fallait les sortir de la contrainte, sauf qu'on s'est trompé. C'est pas les sortir de la contrainte en pensant qu'il ne faut plus transmettre. C'est qu'il fallait tout simplement revenir à une pédagogie qui fasse droit à la sensibilité de l'enfant. Et ça, c'est juste. Je pense à ce titre que des pédagogies comme la pédagogie Montessori ou la pédagogie de Singapour pour les mathématiques ou des choses comme ça sont des pédagogies qui sont tout à fait intelligentes parce qu'elles font la part belle à la sensibilité de l'enfant dans ses premiers apprentissages. Et puis ensuite, elles intègrent le fait qu'un enfant dans une classe ne va pas aller forcément au même rythme qu'un autre enfant. En cela, c'est très intéressant et très intelligent de poursuivre cela et d'avoir en collège effectivement la possibilité d'avoir plusieurs rythmes dans une même classe. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le maître ne transmet plus.
Pour conclure, il y a la question de l'éducation intégrale dans la famille.
Ah oui, bien sûr.
Vous aviez une réflexion quand même en disant, finalement, quand un jeune couple se prépare au mariage, il y a des questions qui ne sont pas évoquées, qui vaudraient vraiment la peine de l'être. C'est justement cette question de l'éducation.
Oui, en fait, ce que j'écris à un moment donné dans mon ouvrage, c'est que la conjugalité heureuse est probablement le premier creuset d'une éducation réussie, et c'est probablement le plus important. Force est de constater que tous les enfants qui ont connu la séparation ou le divorce de leurs parents sont des enfants qui sont abîmés, voire des enfants qui sont profondément meurtris. Donc il y a des séparations et des divorces où on entend des parents dire que ça s'est très bien passé. J'ai même entendu des parents me dire, vous savez, on avait raté notre mariage, mais on a réussi notre divorce. Des expressions comme celle-là me font toujours froid dans le dos parce que pendant 25 ans, moi j'ai compris que ce n'était pas le cas du tout et que je ne connais pas un enfant qui ne soit pas touché quand ses parents se séparent. Alors avec une intensité évidemment variable selon les situations. On peut le dire de manière positive en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les parents très tôt prennent conscience de l'importance de prendre soin de leur couple et de la gravité des enjeux sur ce lien qui demeure et qui demeure toujours, même à 99 ans pour une maman. Je pense que c'est important que les parents aient conscience de ce lien qui demeure entre le cœur de leur amour et le cœur de leur enfant. Et le cœur de leur amour, ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant va arrimer au cœur de ses parents, dans son plus jeune âge, plusieurs choses. D'abord, un, son sentiment de sécurité. Deux, la confiance qu'il a dans le monde d'une manière générale et en particulier dans le monde adulte. Et puis trois, évidemment, la question de la transmission de la foi, c'est-à-dire la joie que les parents ont à s'aimer dans la fidélité et dans la perspective de la sainteté. Et quand on prend ces éléments, mais ils sont fondateurs dans le cœur de l'enfant, de sa croissance et de la joie qu'il a à grandir, de la joie qu'il a à croître dans une famille et dans un foyer qui va lui donner le désir non seulement de se déployer, de s'envoler, mais à son tour aussi de fonder un foyer et de donner la vie.
François-Xavier Clément, il me reste à vous remercier.
Merci à vous,
Fanny.
Que
vous êtes arrêté dans notre radio. Et on va être aux aguets aussi sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup.
Merci, Fanny.